7h42 en temps universel, tout de suite les sports. Avec vous Christophe Thiremzian du football, la fenêtre des éliminatoires du Mondial 2026 refermée. Les internationaux africains sont de retour en club pour la dernière ligne droite des championnats européens.
Et déjà avec réussite pour certains, à l'image du Nigérian Victor Boniface, buteur hier avec le Bayer Leverkusen, vainqueur de Bochum, 3-1 lors de la 27e journée de Bundesliga. En Ligue 1, on en est au même stade, 27e journée, mais là, le Paris Saint-Germain pourrait être sacré dès ce soir si plusieurs conditions sont réunies. Ça dépend notamment du résultat du derby de la Côte d'Azur entre Monaco, 3e, et Nice, 4e. Les Aiglons niçois étaient à la peine sur leurs deux derniers matchs, mais bien se relancer grâce à leur attaquant Evan Guessant. Ça tombe bien, l'Ivoirien revient de sélection tout heureux car il a marqué son tout premier but avec les éléphants face au Burundi.
Beaucoup de fierté parce que voilà, je l'attendais aussi. Voilà, j'avais envie de faire plaisir à cette équipe nationale, de faire plaisir à ma famille et à moi-même. C'est sûr, j'ai une chose qui a été faite. Il y a encore d'autres objectifs à aller chercher, j'espère les atteindre. Je reviens à un autre match important, le switch assez vite parce que on sait à quel point ce match est important pour nous dans cette fin de saison. On connaît le contexte, hein. Même nombre de points, on est à peu près à la même position au championnat. Je pense que nos supporters ils vont être très présents là-bas. Voilà, je ne doute pas de ça, mais j'espère qu'au bout, il y aura la victoire.
Evan Guessant avant Monaco-Nice au stade Louis II à partir de 20h05, temps universel.
Elle est présentée comme l'étoile montante du taekwondo mondial. La jeune ivoirienne Kimi Lorraine-Hossin vient de remporter une compétition du circuit international.
L'Open de Belgique, où elle a décroché l'or en plus de 68 kilos, championne du monde cadette 2022 et troisième des mondiaux juniors l'an passé. Ce jeune talent de bientôt 17 ans s'est lancé sur les traces de sa compatriote et glorieuse aînée Ruth Bagby. Son portrait signé Yoann Gourlet.
Avec son 1m90, ses coups déjà très puissants et ses nombreuses victoires, Kimi Lorraine-Hossin ne passe pas inaperçue sur un tatami. Née à Turin en Italie, elle vit avec ses parents ivoiriens dans la ville d'Alessandria et a déjà un palmarès très impressionnant. Depuis 2021, celle qui évolue dans la catégorie des plus de 68 kilos a remporté 17 médailles internationales dont 13 en or. Décrite par certains comme une virtuose du taekwondo, la jeune championne de bientôt 17 ans, interrogée au téléphone, garde pourtant la tête sur les épaules.
Je sais pas si je suis ou je pourrais devenir une championne, mais je suis certaine que je vais tout faire pour m'entraîner pour le devenir. Et je me rappelle que quand j'étais petite, mes entraîneurs me faisaient voir des vidéos de Ruth Bagby et moi je disais toujours que je voulais devenir comme elle.
Ruth Bagby justement est aujourd'hui une proche de la jeune athlète. La double championne du monde et double médaillée de bronze olympique est impressionnée par le potentiel de celle qui pourrait un jour suivre ses traces.
Elle fait des résultats vraiment impressionnants et puis elle a la rage de vaincre. C'est très important pour pouvoir aller chercher les victoires. Si elle continue ainsi, elle sera une légende du taekwondo ivoirien.
Kimi Lorraine-Hossin est scrutée de près en Côte d'Ivoire. Le taekwondo est le deuxième sport le plus important du pays après le football et son potentiel est tel qu'elle pourrait participer au championnat du monde senior en Chine en octobre prochain et vise déjà les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Yoann Gourlet, Abidjan, RFI.
Et Christophe Thiremzian pour les sports. Merci Christophe. Bonne journée. Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
De retour d'une tournée dans la région des Grands Lacs, le docteur Ronnie Jackson a dressé pour le Congrès américain dont il est membre un état des lieux d'une très grande sévérité sur l'est de la République démocratique du Congo, avec des propositions qui pourraient paraître discutables, sinon controversées aux yeux de certains. Les constats de cet élu républicain ne reflètent-ils pas, malgré tout, quelques vérités à prendre en compte ?
Il serait difficile de lui donner tort lorsqu'il dépeint l'Est de la RDC comme la caricature du Far West, avec toute la charge que porte dans l'imaginaire collectif cette métonymie. Au XIXe siècle, le Far West américain se distinguait en effet par la loi du plus fort et plus personne n'y reconnaissait les règles communes. Et il a raison d'insister sur l'incapacité du gouvernement de Kinshasa à contrôler la région par manque de ressources. On a du mal à le contredire, même lorsqu'il pointe du doigt la corruption, l'enrichissement de certains membres du gouvernement et de leurs familles, pendant que la population survit péniblement. Quant à la responsabilité des pays voisins, Ouganda, Rwanda et Burundi, elle n'est pas contestable. Ils les accusent, doux euphémisme, d'importer des minerais de l'est du Congo. Certaines de ses propositions sont par contre déroutantes. D'aucuns pourraient lui reprocher de reprendre à son compte l'argumentation des soutiens de la rébellion quand il explique leur guerre par ce qu'ils considèrent comme un déficit d'inclusion par rapport à la citoyenneté congolaise des communautés rwandophones auxquelles sont d'ordinaire associés les rebelles du M23. Et l'idée d'intégrer les rebelles à l'armée nationale pourrait choquer au regard de ce qui a déjà été fait dans ce sens en vain.
Pourquoi alors donner une telle importance à ces propositions ?
Parce que Ronnie Jackson passe pour être très proche de Donald Trump et sa perception pourrait s'imposer comme la politique congolaise des États-Unis. D'autant que sa vision et son insistance sur les difficultés pour les entreprises américaines qui voudraient s'implanter en RDC semblent conditionnées par cette forme d'avidité qui règne à Washington pour certains minerais stratégiques. Comme si l'essentiel au fond était de reproduire en RDC ce que les États-Unis tentent d'obtenir avec l'Ukraine en échange de la paix. À ce prix, les rapports de son pays avec la RDC pourraient déboucher sur ce que l'on qualifiait jadis de pacte colonial et qui consistait pour les nations colonisées à alimenter en matières premières les industries de la métropole. Ce serait inquiétant car cette répartition du travail fige les pays africains dans le sous-développement comme dans un piège sans fin. Mais s'il y a faute, elle incombe d'abord aux Africains eux-mêmes qui oublient de s'industrialiser, se contentant d'engranger les royalties pour fournir aux autres de quoi faire tourner leurs industries. Imaginez qu'un coffret d'un kilogramme de chocolat chez un des meilleurs chocolatiers mondiaux peut coûter en Occident jusqu'à 64 fois le prix du kilogramme de fèves de cacao payé aux producteurs africains. L'on retrouve plus ou moins la même échelle de déséquilibre pour tout ce qu'exporte brut l'Afrique. Café, coton, karité, bois, etc. La Chine doit largement sa richesse actuelle à la transformation des matières premières qu'elle importe d'Afrique.
Mais Jean-Baptiste, alors pourquoi l'Afrique se cantonne-t-elle dans ce rôle de fournisseur de matières premières pour enrichir les industries partout dans le monde ?
Déficit de leadership et d'audace. Les rares nations africaines qui s'en sortent sont celles qui savent prendre leur part dans la transformation de leurs matières premières. Si la RDC regorge de minerais essentiels pour les batteries d'ordinateurs, téléphones portables et autres véhicules non polluants, pourquoi donc n'exigerait-elle pas qu'au moins une des premières transformations nécessaires se fasse sur son sol ? C'est ce que font par exemple les Botswanais avec le diamant. Anvers, en Belgique, demeure certes la ville la plus prestigieuse du monde pour ce qui est de la taille du diamant. Mais sur ce marché, Gaborone, capitale du Botswana, où se situe la plus grande mine de diamants à ciel ouvert au monde, est loin d'être négligeable. Ainsi, grâce au leadership visionnaire de ses dirigeants, ce pays abrite les implantations de prestigieuses entreprises internationales, Hyundai, Saab Miller, Daewoo, Volvo, Siemens. Que tombe la pluie, dit la devise du Botswana. Mais pour qu'elle tombe effectivement, les Africains devraient s'interroger, se remettre en cause, plutôt que de compter sur la bonté de ceux qui prospèrent sur leur indolence.
Merci Jean-Baptiste Placard. Et dans Menace sur l'information, ce matin, le Burkina Faso, au pays où le musellement de toute voix dissidente est devenu la règle, comme l'a affirmé hier sur notre antenne Human Rights Watch, l'ONG, qui s'alarme des arrestations qui s'enchaînent à un rythme particulièrement inquiétant. En l'espace d'une semaine, au moins 8 personnes, dont 5 journalistes, ont été emmenées par des hommes en civil, sans mandat ni motif officiel. Tous sont détenus dans un lieu toujours inconnu à ce jour. La répression contre la presse s'accentue depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir en 2022. Coup de projecteur sur la disparition de 2 journalistes de renom, alors qu'au vu de l'insécurité, nombre de nos confrères et consoeurs burkinabés n'ont pas souhaité s'exprimer au micro, Sidi Yansané.
Il y a une semaine à Ouagadougou, l'association des journalistes de Burkina présente son nouveau bureau national. Le président Guizouma Sanogo prend la parole et fustige la totale mainmise de la junte du capitaine Ibrahim Traoré sur les médias publics.
Une autre caractéristique, la haine et la diabolisation des médias se traduit par les enlèvements et les séquestrations des journalistes.
À côté de lui, Boukari Wouba, fraîchement élu vice-président de l'AJB, une promotion de courte durée. Trois jours plus tard, des hommes se disant agents des renseignements l'emmènent avec son président, un mode opératoire devenu la norme au pays des hommes intègres. Ses confrères et consoeurs sont unanimes. Boukari était le gardien du temple du Centre national de presse Norbert Zongo, qui faisait le relais avec les exilés. Analyste percutant, enquêteur, homme de terrain, pour son magazine Le Reporter, il livre un papier sur la disparition du milicien Django, l'une des toutes premières victimes d'enlèvement sous la junte du MPSR2. Sadibou Marong, directeur du bureau régional de RSF.
Il a gagné pas mal de prix, Boukari. Il a la question de la disparition de Django, l'artiste milicien là, qui était devenu leader des Kolwego dans l'Est, bon, qu'on appelle Moussa Tchambiano. Boukari, c'est également un journaliste très engagé qui est tout le temps aux côtés de ses confrères aussi et qui n'a pas peur de s'exprimer pour la justice et l'égalité, mais également la dignité de la population.
9 mois plus tôt, c'est une autre vague d'enlèvement qui s'abat sur 4 journalistes, dont Atiana Serge Houlon, kidnappée à son domicile. Le directeur de publication de l'événement a été réquisitionné pour combattre au front, dira plus tard le ministère de la Justice du Faso. Pour ses confrères, Serge est un enquêteur né. Comparant son journal L'Événement à Mediapart, le site d'information français qui s'est forgé une réputation mondiale en moins de 10 ans, Serge Houlon a enquêté sur le détournement présumé de 400 millions de francs CFA destinés à financer les supplétifs VDP et empochés par un certain capitaine du Centre Nord, d'après l'article. Sadibou Marong.
Cela lui a valu une audition par le tribunal quelques semaines, mais c'est un grand professionnel dont la qualité de ses sources a rapidement attiré, disons, les nouvelles autorités pour que ces autorités-là puissent essayer de le suivre davantage. Serge, c'est aussi un journaliste qui recevait des prix sur la lutte anticorruption dans la presse. Il fait partie de la crème. Ce sont ces journalistes-là dont le Burkina a besoin, et donc ces journalistes ne doivent pas passer une seconde dans une prison de notre point de vue.
Pour son ultime publication en août dernier, l'événement a publié le portrait de Serge Houlon en première page. Et cet édito, titré « Qu'est-ce qui nous arrive ?», référence au climat crépusculaire du journalisme burkinabé, reconnu pour être l'un des plus performants d'Afrique de l'Ouest.
Sidi Yansané pour Menace sur l'information. Bientôt 8h en temps universel et bientôt la fin des RFI matin. D'abord, comme chaque samedi, on retrouve Lucie Bouteloup et ses rencontres avec les amoureux de la langue française à la découverte de leur mot fétiche. C'est un mot, une histoire.
C'est un mot double qui est intriguant, qui est très étrange, qui change presque à chaque fois de forme. C'est une sorte de sujet de quête pour moi.
Sorour Kasmaï est née à Téhéran. Mais elle a fui l'Iran après la Révolution pour s'installer en France, où elle vit depuis plus de 40 ans. À côté de ses activités de traductrice, elle publie 4 romans et fonde la collection Horizon Persan aux éditions Actes Sud. Et comme c'est une femme engagée, notamment auprès de celles qui s'insurgent contre l'oppression qu'elles subissent de la part du gouvernement iranien, elle a publié en 2023 l'ouvrage « Femmes, rêves, liberté » en écho au mouvement Femme, Vie, Liberté. Et pour cet épisode, elle a choisi de nous parler d'un mot existentiel.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Je vais vous parler d'un mot qui m'a toujours intriguée, c'est le mot être, qui est un verbe, mais qui est aussi un substantif. Et donc, il a plusieurs aspects. Le verbe être est un verbe d'état qui relie l'attribut au sujet. Mais c'est un verbe, on ne peut plus irrégulier. Je suis, mais tu es. Nous sommes, mais vous êtes. Et au passé et au futur aussi sont différentes. Je fus, alors que je serai. Peut-être c'est une façon d'exprimer l'idée que chacun a sa façon d'être dans le temps. Et puis il y a cette forme à la troisième personne du singulier, et, EST, qui est commune aux persans, aux français et aux russes, mais 3 langues. En passant, une petite remarque, le verbe « être » ne se conjugue pas en russe au présent. On ne peut qu'être qu'au futur et au passé. Et donc, tous ces aspects m'ont toujours intriguée par rapport à cette façon que la langue prévoit pour son locuteur ou locutrice que je suis d'être.
Être, c'est aussi exister, c'est vivre.
C'est l'être. Ce qui nous ramène au substantif, c'est-à-dire prendre conscience de son être profond, le façonner malgré les obstacles qui sont la culture, les coutumes, les traditions, les croyances, qui vous obligent d'être celle-ci ou celle-là, qui vous empêche d'être celle que vous voudriez être. Et donc, c'est une voie, une sorte de voie mystique presque, pour arriver à toucher vraiment cet être profond qui est quelque part en nous, la faire révéler, si vous voulez. Et l'être n'est jamais figé. L'être a un rapport dialectique avec le temps, avec le devenir. Dès que vous êtes quelqu'un, que vous prenez conscience de l'être, vous êtes déjà quelqu'un d'autre. Être femme, être exilée, être écrivaine.
Selon le dictionnaire Le Petit Robert, être désigne à la fois un verbe intransitif, c'est avoir une réalité, exister, mais c'est aussi un nom qui désigne ce qui est vivant, animé ou encore l'âme, la conscience de quelqu'un.
C'était un mot, une histoire.
Sorour Casmaï avec Lucie Bouteloup. Bientôt 8h en temps universel et avant le journal, avant de nous quitter, une chanteuse de jazz connue pour son amour des musiques du monde, la française Gaby Hartmann et son invité, la flûtiste syrienne Naysam Jalal sur le titre Levé de soleil.
Hurler leurs sombres prières, elles tournent de travers la terre où coulent les flaques de sang. Tourmente, tourmente nos cœurs sans repère, bien souvent ceux d'innocents. Y a-t-il vraiment que de s'aimer, se défaire? Y a-t-il vraiment plus rien à croire quand les loups prient le pouvoir dans ce matin obscur et blême? Puis-je encore voir ce qui claire?
Gaby Hartmann et Naysam Jalal, Levé de soleil, un petit extrait pour vous donner envie d'aller écouter ce morceau dans la sélection du mois d'RFI sur musique.rfi.fr. Et voilà, c'est ainsi que se termine RFI Matin pour aujourd'hui. Je remercie Christophe Pernet à la réalisation. On se retrouve demain. Et d'ici là, très bonne journée sur la radio du monde.
Entends-tu pleurer nos mères?
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Ce chef d'entreprise a traversé toute l'histoire récente de la RDC, dont il dirige l'un des plus grands groupes privés. Le Belge Georges-Arthur Forest, 85 ans, pense que l'Afrique peut nourrir le monde. Le vice-roi du Katanga, tel qu'il est surnommé, est notre invité exceptionnel.
Écho d'ici, écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
Découvrez l'exposition Paris Noir au Centre Pompidou à Paris. Paris Noir met en lumière 150 artistes africains, caribéens et africains-américains qui ont fait de Paris un foyer de création et d'engagement, de liberté et de résistance des années 50 aux années 2000. Ils sont célébrés pour la première fois en France. Paris Noir, circulation artistique et lutte anticoloniale jusqu'au 30 juin au Centre Pompidou à Paris. Plus d'informations sur centrepompidou.fr. En partenariat avec France Média Monde.